Alors, on a en studio avec nous Marie-Claude André-Grégoire, qui est avocate pour O'Reilly, André-Grégoire et Associés, SENC. Et c'est vraiment pour discuter de la loi C-92. On en a discuté un petit peu en fin d'émission la semaine passée, mais là, on y va vraiment en détail. Loi qui a vraiment une incidence sur les services sociaux auprès des Premières Nations au pays au complet. Et donc, cette loi-là a été reconnue unanimement en Cour suprême. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Ouais.
Donc, c'est un sujet. Moi-même, j'ai été en famille d'accueil plus jeune. Donc, je me sens interpellée et je suis pleine d'espoir pour le futur des jeunes qui auront à passer par les services sociaux pour diverses raisons. En gros, on le disait un peu la semaine passée, comme je le disais, c'était Québec qui s'opposait à cette décision-là. Puis là, finalement, la Cour suprême au niveau fédéral, le Canada, les juges ont tous dit, ont tous unanimement reconnu cette loi-là. Est-ce que tu veux nous mettre un peu en contexte, là, qu'est-ce qui s'est passé au juste là?
Oui, donc dans le fond, c'est le 1er janvier 2020, le fédéral a adopté la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Donc, vous comprenez pourquoi on appelle ça plus souvent la loi C-92, parce que elle est très longue à dire. Mais en fait, c'était une loi vraiment innovatrice où on reconnaissait dans la loi le droit inhérent aux Premières Nations et aux Métis et aux Inuits de leur autonomie gouvernementale. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'était spécifique pour, la protection des enfants et des familles, mais c'était vraiment nouveau parce que, essentiellement, comme on le sait, normalement, chaque Première Nation doit faire reconnaître par un jugement leur autonomie gouvernementale. Et quand on y pense, ça n'existe pas dans la jurisprudence, un jugement qui reconnaît ce droit-là. Et donc, c'était vraiment innovateur du fédéral de faire reconnaître un droit à l'autodétermination dans la protection de la jeunesse et des familles à l'ensemble des Premières Nations au Canada. Donc ça, c'était un point. L'autre point, c'est qu'elle établit, dans le fond, un cadre pour que chacune des Premières Nations puisse, si elle veut, exercer sa compétence pour développer un système de protection de la jeunesse. Souvent, chacune des Premières Nations vont appeler ça selon leurs termes à eux. Par exemple, chez les Inuits d'Ouachat-Makmalotenam, on parle d'un système de bienveillance, justement pour s'écarter là, des traumatismes intergénérationnels qu'il y a eu avec les pensionnats, mais aussi avec la loi sur la protection de la jeunesse du Québec.
Parce qu'on peut clairement faire le lien quand on parle, on entend souvent dans le public là, que les services sociaux sont les nouveaux pensionnats pour Indiens. C'est que dans le passé, la mesure était que si un enfant devait être placé, s'il n'y avait pas immédiatement quelqu'un de disponible et de certifié, si on peut dire famille d'accueil, là, donc qui avait répondu aux exigences des services sociaux, il l'amenait dans un contexte non autochtone. Donc, il, par la force des choses, perdait accès à leur langue, leur culture et tous les liens communautaires et familiaux auxquels ils sont habitués dans leur communauté.
Oui, exactement. Donc, la loi, l'objectif premier était de répondre justement à la surreprésentation des membres de peuples, des Premières Nations et des peuples autochtones au Canada. Donc, si on pense là, juste au recensement de 2021, 53,8% des enfants en famille d'accueil étaient un membre d'une Première Nation ou Inuit ou Métis. Et donc, malgré le fait que les enfants autochtones représentent seulement 7,7% de la population au pays. Donc, c'était vraiment, l'objectif était de répondre à la surreprésentation des enfants autochtones dans le système. Et qu'est-ce qui est arrivé essentiellement, c'est que le Québec, en voyant que le fédéral adoptait une loi qui permettait aux peuples autochtones d'exercer leur autonomie gouvernementale, le Québec a contesté, dans le fond, la validité de cette loi-là. Et ça s'appelle un renvoi, ça s'en va directement à la Cour d'appel. Mmh. Et la Cour d'appel a rendu un jugement qui était, en fait, qui rend, qui indiquait qu'effectivement, les communautés autochtones avaient un droit ancestral générique. Là, on est vraiment dans les termes juridiques, là, mais essentiellement, c'est que ça disait que chacune des Premières Nations n'avait pas besoin de faire leur preuve devant des tribunaux pour faire reconnaître qu'il y avait une autonomie gouvernementale. Donc ça, c'est au niveau juridique et en droit autochtone, c'est vraiment, c'était innovateur, c'était incroyable. Ça mettait fin à plusieurs débats juridiques et politiques aussi. Mais par contre, la Cour d'appel est venue invalider certaines dispositions de la loi fédérale. Donc, autant le Canada que le Québec ont demandé la permission d'en appeler à la Cour suprême et plus de 40 intervenants sont intervenus. Moi-même, j'ai plaidé à la Cour suprême comme intervenant pour la communauté des Innus d'Ouachat-Makmal-Outenam. Et c'est un jugement qui était très attendu. Ça fait plus d'un an qu'on a plaidé cette question-là. Et finalement, ça a été rendu il y a pratiquement deux semaines, la semaine passée.
Donc, c'est vraiment...
Le 9 février.
Oui, le 9 février, exactement.
C'est un méchant gros changement parce que, dans le fond, les Autochtones, on était considérés pupilles de l'État. Donc, on était comme des enfants de l'État au point de vue légal. Donc là, on n'a plus besoin d'aller prouver qu'on est capable de gérer, c'est ça?
Bien, essentiellement, ce que la Cour suprême est venue dire, c'est que le fédéral, dans sa loi, reconnaît que les Premières Nations ont l'autonomie gouvernementale. Mmh. Et donc, l'autonomie gouvernementale pour adopter, dans le fond, une loi qui va définir comment ils vont protéger leur famille et leurs enfants, et donc s'écarter du système provincial s'ils le désirent. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'essentiellement, pour chacune des Premières Nations, ils vont pouvoir adopter leur propre loi. Puis ça, il y avait une certaine incompréhension dans certains membres des communautés où ils disaient, est-ce que c'est une loi qui va être adoptée pour toutes les Premières Nations? Non, c'est pas ça. C'est chacune des Premières Nations peuvent choisir, chacune communauté peuvent choisir de définir comment ils veulent protéger leurs enfants. Et il y avait beaucoup de préoccupations, puis on a déjà la commission Laurent qui est venue expliquer qu'il y avait une discrimination au niveau du système de la loi sur la protection de la jeunesse, autant parce que ça prenait pas en considération les cultures et autochtones, que ça prenait pas en considération différentes traditions, juste la langue qui est pas la même. Et donc, c'est pourquoi chacune des Premières Nations peut choisir, au lieu de judiciariser, par exemple, leur recours, le système, dans le fond, ça peut être un conseil des aînés, ça peut être un conseil des sages, ça peut être un conseil de famille qui va décider lorsqu'une famille a des problèmes, ben qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, mais surtout comment on peut donner la chance aux parents de se reprendre en main. Oui. Parce qu'on sait que la loi sur la protection de la jeunesse définissait un délai où les parents ne pouvaient plus reprendre contact avec les enfants, mais nous, dans les cultures autochtones, dans nos cultures, on a toujours eu ce lien-là avec les parents qui demeure et qui doit demeurer dans les communautés.
Parce que je regarde, moi, il y a un exemple qui me vient en tête quand tu mentionnes ça, Marc-Claude, on se tutoie parce qu'on se connaît oui. déjà. Il y a une femme que je connais qui a fait une adoption traditionnelle d'une jeune Inuk. Et c'est vraiment légalement son enfant, mais elle va toujours, quand elle l'amène dans le Nord, elle dit « Ah ben, elle va aller voir sa mère biologique, on va l'amener voir sa famille, je suis allée à la chasse au phoque avec les hommes de la famille, etc. » Parce que c'est une personne qui prend son rôle de chasseuse aussi à cœur. Donc, c'est un lien qui, pour elle, elle n'y pense pas deux fois. C'est essentiel que son enfant puisse quand même avoir ce lien-là avec les membres de sa famille, même si elle est légalement vraiment sa fille maintenant. Donc, c'est une grosse différence comparativement à ce qu'il y avait avant. Là.
Exact. Bien, dans le fond, c'est de reconnaître, dans le fond, le système traditionnel, la vision, la perspective autochtone dans le cadre de la vision familiale, la vision de famille élargie. Je pense que tout le monde ici connaît l'adoption coutumière mm-hmm. Où ça peut être juste momentané. Les grands-parents s'occupent de leurs petits-enfants pendant que les parents s'en vont aux études ou ont un moment difficile de leur côté, mais le lien de parenté a toujours été su des différents parents et des différents enfants pour l'adoption coutumière chez les Autochtones parce que justement, ça te rattache à ton identité et c'était très culturellement admis, il n'y avait pas de problématique à ce niveau-là. Et donc, cet aspect-là de l'adoption coutumière n'était pas du tout pris en compte dans la loi sur la protection de la jeunesse. Donc ça, ça va permettre à chacune des Premières Nations, en exerçant leur autonomie gouvernementale, en définissant leur propre loi, de faire respecter dans leur propre loi leurs coutumes, leurs traditions. Aussi l'importance de la langue, l'importance des critères justement très stricts. Là, par exemple, pour être famille d'accueil, on demandait d'avoir une chambre séparée à l'époque pour si tu veux être famille d'accueil.
Mais sur le même plancher. Des fois, il y a des maisons auxquelles ce n'est pas possible.
Bien, ça ne prend pas du tout en considération dans les communautés autochtones. On manque de logement. On a 3 générations dans la même maison. Comment on peut permettre justement d'obliger ces critères-là quand on a plusieurs familles, plusieurs enfants qui restent dans la même chambre, puis là, on empêche le lien culturel de se garder dans la communauté pour un critère comme ça qui n'est pas adapté.
Pour nous, je pense, les Autochtones, ce critère-là serait vu comme de l'exclusion, en fait, de mettre le jeune seul dans une chambre, d'avoir ses cousins, ses neveux, 3 dans la même chambre qui ont du fun ensemble, si on peut dire. Là. La langue aussi, ça fait une couple de fois que tu le mentionnes, les langues autochtones, moi, c'est sûr que je comprends mieux ma langue que je le parle. C'est un processus quand même de longue haleine que je lâche pas, mais qui n'est pas toujours évident. Les langues autochtones n'ont qu'une base grecque ou latine, si on le sait. Et moi, je trouve que dans la façon d'exprimer certaines choses, c'est vraiment lié avec notre culture. Il y a un rythme, il y a des choses, la façon dont elles sont dites, qui ont vraiment un lien par rapport à notre culture, notre lien par rapport au territoire, mais nos interactions entre nous aussi. C'est sûr qu'on a un sens d'humour très développé, où est-ce que, des fois, moi, je dis ça avec des amis québécois, nous autres, on va rire pour un rien, puis on va rire toute la journée, puis 2 jours après, on va repousser une craque là-dessus, puis on va encore la rire aux larmes, là, à se claquer la main sur les cuisses, puis à rire à bouche déployée. Puis là, mes amis québécois sont comme, ouais, c'était drôle l'autre fois, là, mais non, mais c'est encore drôle, on la rit encore. Donc, moi, je pense que le fait d'être exposé à la langue, de pouvoir s'exprimer comme ça, c'est clair que ça a une influence. Je pense même aux Inuits, où est-ce qu'ils vont dire oui ou non, simplement avec un geste, avec le nez, les yeux, ils vont plisser d'une certaine façon et ils vont plisser le front et ça va être, ils vont dire oui ou non, simplement comme ça, sans utiliser de mots. Moi, c'est un apprentissage que j'ai fait. J'ai dit à un Inuit, ben là, réponds-moi avec des mots, là, je comprends pas ce que tu dis. Il dit, ben, tu comprends pas ça, là. Ça, tu comprends pas que c'est oui, puis ça, tu comprends pas que c'est non. Je suis comme, ah, oh, ben oui.
Ben, imaginez qu'on judiciarise justement des dossiers de protection de la jeunesse dans les communautés inuites où on est devant un tribunal, un juge non autochtone qui n'a aucune connaissance de ces aspects-là, puis que les parents ou peu importe, les tantes, les grands-mères essayent de faire valoir justement leur volonté de prendre en charge les parents, l'enfant. Mais que, justement, tout le système judiciaire n'est pas adapté aux cultures autochtones. Puis l'exemple des Inuits est tellement, justement, marquant, où on voit qu'il y a un crash, puis il fallait qu'il y ait une réponse. Puis la réponse, elle est permise, justement, dans cette loi-là fédérale de C-92. Donc, c'est une belle ouverture de la décision de la Cour suprême qui nous permet d'avancer. C'est un grand pas vers la réconciliation.
C'est fait dans le cadre, justement, des recommandations pour la commission de vérité et réconciliation. Ce jugement-là a été pris en compte en ayant ça en tête. On va continuer cette discussion-là. Je présume que ça va devenir un peu plus légal. Alexis va se joindre aussi à la conversation. On va aller pour une courte pause musicale. Là, cette semaine, j'avertis nos auditeurs la semaine passée, ça va décoiffer, ça va décaper cette semaine. Alexis et moi, on est des fans de métal, mais Alexis un petit peu plus. Et il m'a fait la demande spéciale de faire une sélection musicale de chansons métal autochtones. Alors, nous commençons. C'est John Krieger qui fait du black metal sous le pseudonyme Skagasoha. C'est les membres de la nation Mohawk et a vécu plutôt dans les Adirondacks, plus au nord-est de New York. Et c'est avec son band Black Braid et on va entendre The Spirit Returns.
Bon, c'est une belle nouvelle, c'est une belle et bonne chose que la Cour suprême ait décidé à l'unanimité de valider cette loi-là. La Cour d'appel du Québec passait par un chemin de réflexion qui nous amenait à dire l'État fédéral peut valider, peut reconnaître les droits ancestraux reconnus sous l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Ça veut dire, pour les personnes non juristes, que le droit ancestral à l'autonomie gouvernementale avait une protection constitutionnelle. Dans une certaine mesure, selon l'avis de la Cour d'appel du Québec. La Cour suprême décide de ne pas passer par ce chemin-là pour reconnaître la validité de la loi. Elle dit, bon, ben, l'avis de l'État fédéral est très important, il va falloir le considérer, mais on n'a pas besoin de répondre à cette question-là sur est-ce que c'est un droit constitutionnel ou pas pour valider ou non la loi. Est-ce que ça apporte pas un peu d'insécurité par rapport à notre autonomie gouvernementale, advenant, mais mettons qu'un autre gouvernement comme Poilievre arrive au pouvoir puis décide de changer la loi?
Oui, ben effectivement, là, dans le fond, la nuance est intéressante ici parce que comme tu disais, la Cour d'appel est allée plus loin. Elle a reconnu le droit autochtone d'autonomie, en fait, le droit d'autonomie gouvernementale générique pour l'ensemble des Premières Nations au Canada. Et donc, ça, c'était d'aller un pas beaucoup plus loin, plus intéressant, je dirais. La Cour suprême est venue dire que la loi fédérale reconnaît
C'est ça.
ce droit-là. Et donc, la nuance vient porter de l'insécurité autant au niveau fédéral, mais surtout autant au niveau provincial, parce que la Cour suprême vient ouvrir une porte sur le fait que elle n'a pas à décider si les lois prochaines des Premières Nations ne peuvent pas être contestées par les provinces. Donc, dans ce cas-là, ça, moi, en tout cas, une des préoccupations des membres des Premières Nations va être certainement du fait, est-ce que le Québec va vouloir, par exemple, puisque c'est quand même elle qui a posé, qui est allée en renvoi sur cette question-là, est-ce que le Québec va venir systématiquement contester les mesures qui vont être prises par les Premières Nations en fonction de leur propre loi que les Premières Nations va prendre? Donc, par exemple, si on donne quelque chose de concret pour les auditeurs, Abidjan est une des seules Premières Nations au Québec qui ont déjà leur propre loi sur la protection des familles et des enfants. Et donc,
La
dans
loi de
la...
protection sociale de Pitchouan.
Oui, exact. Et donc, si le Québec conteste cette loi-là et ouvre la question, est-ce que Abidjan a réellement l'autonomie gouvernementale d'adopter cette loi-là? Il pourrait le faire. Politiquement, ça serait à se mettre dans une position particulière, mais sinon, est-ce qu'il pourrait quand même contester la question de l'application de la loi au-delà des communautés? Donc, par exemple, si un enfant à Atikamekw se trouve à Montréal, est-ce que c'est la LPJ qui s'applique ou est-ce que ça va être la loi d'Abidjan? Et donc, dans ce cas-là, et par ce fait même, dans le fond, le Québec pourrait contester l'autorité, l'autonomie gouvernementale d'exercer cette loi-là de manière extraterritoriale, si on parle, c'est dans le sens en dehors de la communauté. Donc, il y a cette réticence-là que je dirais qui vient, que la Cour suprême n'a pas voulu aller si loin que ça parce qu'elle est très claire. Elle ouvre la porte aux provinces de pouvoir contester certaines dispositions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour les juristes, là, comme on sait, et je vais essayer de le simplifier, mais que les communautés autochtones prennent les recours judiciaires, malheureusement, pour faire reconnaître leurs droits ancestraux, qui sont constitutionnels par l'article 35, malheureusement, c'est aux Premières Nations de devoir prouver qu'ils ont ce droit ancestral-là. Donc, c'est nous qui avons le fardeau de preuve, ce qui est complètement aberrant quand on pense que c'est les Premières Nations qui étaient là avant même l'arrivée des Européens, mais c'est à nous de le prouver.
Ouais,
Et
juste pour
donc,
donner un petit ordre de grandeur, pour Tsikolten, ça a coûté plus de 40 millions pour prouver le titre ancestral, puis c'est la seule nation au Canada qui a réussi à prouver le titre sur le territoire.
exactement, puis seulement sur 5% de l'ensemble de leur territoire.
C'est ça.
Et c'est pas comme s'il y avait pas eu d'autres Premières Nations qui avaient tenté de faire ce chemin-là. Au contraire, il y en a eu beaucoup, puis les critères sont très stricts. Mais là, c'est la loi fédérale qui reconnaît pour toutes les Premières Nations ce droit à l'autonomie gouvernementale. Est-ce que, là, pour revenir à ta question, est-ce que un changement au niveau fédéral, un changement politique pourrait venir changer cet aspect-là de la loi. Ça me surprendrait parce que ça a quand même été, ça a été par renvoi déclaré valide par la Cour suprême du Canada. Donc, un recul serait vraiment contesté politiquement par certaines provinces, si on pense à la Colombie-Britannique, mais aussi par
une contestation politique.
Oui.
Le Parlement a quand même la souveraineté dans notre système parlementaire. Je vais vous dire qu'un gouvernement Poilievre me fait peur.
Bien, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que surtout que la Cour suprême est venue vraiment fonder son analyse sur le pouvoir parlementaire d'adopter cette loi-là par le fédéral. Mais elle fonde aussi son analyse énormément sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce qui en fait un outil juridique encore beaucoup plus fort grâce à la décision de la Cour suprême. Puis, tu sais, c'est sûr que les termes sont forts quand ils sont utilisés dans la décision, mais ce que pour les Premières Nations, c'est vraiment, ça leur permet de retrouver leur dignité en tant que peuple, tu sais, de faire reconnaître en tant que peuple, de pouvoir exercer leur autonomie gouvernementale pour protéger quelque chose qu'est-ce qui est plus important que nos enfants, puis de s'assurer que la culture se transmette pour les générations futures, c'est vraiment cet aspect-là.
La Cour suprême reprend une belle métaphore qui a été développée par Burroughs et d'autres juristes autochtones, le tressage législatif. C'est une belle métaphore où on tresse avec du droit international, du droit de l'État canadien, puis du droit des peuples autochtones, une tresse qui fait une loi, qui fait une législation qui permet justement de retrouver notre autonomie.
Oui, bien, en fait, j'aimerais pouvoir un jour voir justement une tresse à quatre branches, c'est-à-dire autant le droit fédéral, le droit des Premières Nations, le droit international, mais aussi le droit provincial qui vient s'enligner avec cette belle tresse-là. Là, dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait être avancé clairement vers une réelle autodétermination, mais surtout une réelle réconciliation.
Voilà, avancer
dans
la même
d'autres provinces,
Avancer dans la même direction, dans le fond, là.
C'est ça.
Finalement, oui.
Marie-Claude, c'était vraiment un immense plaisir de t'avoir à l'émission. Tiens-nous au courant. c'est un sujet vraiment important. Donc, Marie-Claude André-Grégoire, avocate O'Reilly, André-Grégoire et associé SENC, pour parler de la loi C-92. Merci beaucoup.
Merci.
Allez, Annie.
Tchenechke maintenant.